Europe 1, votre matinale info. Bonjour. Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et donc il est 8h sur Europe 1. Très bonne journée.
J'ai posé une semaine de vacances pour les aider et je vais prolonger encore une semaine. On est en train d'installer un genre de pont de singe pour permettre aux gens de sortir de chez eux.
La solidarité encore et toujours dans les Alpes-Maritimes. Une semaine après les terribles intempéries, le chantier est immense. Il faut réparer des routes, des ponts. C'est le cas notamment dans la vallée de la Roya.
Quatre nouvelles villes en alerte maximale face au Covid. De nouvelles mesures s'appliquent à Lyon, Lille, Grenoble, Saint-Étienne. Partout en France, les étudiants sont également impactés. Depuis la rentrée, les amphis ont été vidés.
On vous donnera des nouvelles d'Edouard Philippe. Il était à Blois hier, toujours aussi populaire.
Et puis, c'est un sport qu'on va découvrir en France. Les stars du MMA seront à Bercy ce soir. Non, ce n'est pas une compagnie d'assurance. On vous explique tout en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'ampleur des dégâts n'a pas encore été chiffrée. Cela reprendra des semaines, voire des mois, mais les habitants des Alpes-Maritimes pensent déjà à la reconstruction.
Et à ces premiers coups de pelleteuse, comme autant d'espoir après la tempête qui a ravagé leur vallée il y a tout juste une semaine, les dégâts sont immenses. Le département a décidé de débloquer 17 millions d'euros pour lancer les premiers travaux. Il s'agit notamment de reconstruire des kilomètres et des kilomètres de routes, comme à Breil-sur-Roya, où s'est rendu Jean-Jacques Héry pour Europe 1.
Les engins de terrassement ont investi les restes de la route qui montait vers la Haute-Vallée. En moins d'une semaine, une piste carrossable de 8 km pour véhicules de secours a déjà été tracée jusqu'au pied de Saorge, la première commune isolée. Nicolas Portman de la direction des routes.
C'est un gruyère, hein, la route pour monter jusqu'à Tende. On est sur un principe avec des pistes provisoires, avec du remblaiement avec des matériaux, de telle manière en fait à reconstituer une chaussée provisoire. On prévoit aussi peut-être des ponts provisoires, des passages à gué, tous les moyens possibles qui nous permettent d'avancer.
Imperturbable, grise couleur ciment, la rivière Roya continue de couler en contrebas. En aval, le pont qui l'enjambait n'existe plus, ne reste que trois piliers où s'affairent des cordistes. Parmi eux, la présence de Valentin, venu d'Avignon, offre la mesure de la solidarité sur le chantier.
J'ai posé une semaine de vacances pour les aider et je vais prolonger encore une semaine. On est en train d'installer un genre de pont de singe pour permettre aux gens de sortir de chez eux.
Parce qu'il y a une maison en face, hein.
15 habitants qui sont coincés depuis vendredi dernier chez eux.
Et puis il y a la question du train aussi. La remise en fonctionnement de la voie ferrée sur toute la ligne est indispensable pour faire revivre la Roya, jugent les habitants. Vu l'état de la route, ça sera le seul moyen pour désenclaver la Haute-Vallée. Breil-sur-Roya, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
Et pendant ce temps, les courbes continuent de s'affoler. La France hier a atteint un nouveau record dans l'épidémie de Covid, plus de 20 000 cas en 24 heures.
Ce matin, Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne basculent à leur tour en alerte maximale. Les bars sont fermés, les restaurants baissent leurs rideaux à 22 heures.
Partout en France, il faut apprendre à vivre avec ces mesures, apprendre à étudier. À la maison, par exemple, les facs ont reçu l'ordre de vider la moitié des amphis. Virginie Riva.
Marwa sort de son amphi d'économie à Tolbiac. Elle est en deuxième année et avec la moitié des cours à distance, depuis la rentrée, elle craque. Elle a décidé de tricher et de venir tous les jours.
J'en peux plus du virus. Au bout d'un moment, c'est saoulant, c'est gavant. Chez moi, j'arrive pas à étudier. On est beaucoup. Je suis une petite maison et je préfère venir à la fac et étudier parce que chez moi, c'est impossible.
Kofi est très heureux de retrouver son ami Mathieu pour sa semaine de cours en informatique sur site à Tolbiac. Quand ils sont à distance, ils ont le moral au plus bas.
Rester tout le temps dans ma chambre et faire les cours, non, je peux pas. Oui, c'est déprimant, je trouve.
Et le fait d'aller à l'université, on se sent étudiant, donc c'est important pour rester motivé dans nos études.
Est-elle, toute nouvelle étudiante en première année de médiation culturelle, garde le sourire et pourtant, la majorité de ses cours ne se font même pas à distance. Le prof envoie simplement des documents écrits.
On n'a pas de visio où le prof parle et on peut poser des questions et compagnie. Juste, les profs, ils nous envoient des PowerPoint et on est censé travailler dessus de nous-mêmes. Enfin, il n'y a personne qui est là pour nous expliquer, il n'y a pas d'autres camarades à qui on pourrait poser des questions, des trucs comme ça. Moi, je pensais vraiment me retrouver en amphi avec plein de gens et de pouvoir faire des vrais cours de fac.
Le seul endroit pour croiser sa promo reste la bibliothèque universitaire ou le Resto U. Mais là aussi, impossible d'y aller en théorie quand on est censé être à distance.
Un reportage à Paris de Virginie Riva. 48 heures après l'agression de deux policiers dans le Val d'Oise, un homme est toujours en garde à vue. Il s'est livré à la police hier. Mercredi soir, trois agresseurs s'en sont pris à deux policiers en service, leur ont pris leurs armes. L'un d'entre eux, l'un de ces policiers, se trouve toujours entre la vie et la mort.
Il reçoit chaque semaine des dizaines de demandes. Depuis qu'il a quitté Matignon, Édouard Philippe est sans doute l'une des personnalités politiques les plus courtisées.
L'ancien Premier ministre choisit ses sorties. Hier, il était à Blois pour les rendez-vous de l'histoire. Au milieu de ses admirateurs, reportage d'Aurélie Herbemont pour Europe 1.
On lui offre un livre sur Michel Rocard. Il repart aussi avec des BD, Lucky Luke, 50 nuances de grec. Et entre deux discussions historico-littéraires, Édouard Philippe dédicace un de ses livres à Mireille et Marie.
Oh Marie.
En plus, mon mari était fan de Johnny.
Ben voilà. Et vous venez tous les ans au rendez-vous de l'histoire?
C'est la première fois. Je vais vous dire franchement, parce que vous veniez. Vous voulez que je le dise?
Non, le dites pas, parce que sinon je vais y aller.
Ah bon, où donc? Au gouvernement? J'aimerais bien que vous veniez.
Édouard Philippe est tout de suite moins bavard. Et malgré sa loyauté affichée vis-à-vis d'Emmanuel Macron, Myriam lui prête des ambitions.
Il doit sûrement être en campagne caché. J'espère qu'il est candidat en 2022. Parce que je trouve qu'il a réussi à gérer la crise, il a réussi à parler aux Français beaucoup mieux que le président. Il avait été beaucoup plus pédagogue, il a su dire je ne sais pas quand il ne savait pas.
Une crise du Covid sur laquelle revient Édouard Philippe au détour de son entretien consacré à l'histoire.
Dans cette période qui était une période intense, j'ai essayé tous les jours de me garder 20 minutes pour lire un peu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les histoires de révolution britannique. Tout ça part d'une contestation politique qui se termine par une décapitation. Donc voilà, ça a égayé beaucoup mon quotidien.
Des lectures quasi prémonitoires, car même s'il a toujours la tête sur les épaules, Édouard Philippe n'est plus Premier ministre.
Reportage d'Aurélie Herbemont, Édouard Philippe et la situation à droite à 18 mois de la présidentielle. On en parlera juste après ce journal avec le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier. Il est mon invité à 8h15. C'est un débat qui a été écarté du projet de loi bioéthique, mais qui revient sur la table aujourd'hui, le débat sur la fin de vie.
L'Association pour le droit de mourir dans la dignité organise aujourd'hui sa 40e Assemblée Générale, une journée de débat avec notamment un témoignage en ouverture, celui d'Alain Coq, gravement malade et qui a déjà demandé à ce qu'on le laisse partir. Mathieu Bock.
Le centre des congrès n'est qu'à quelques centaines de mètres seulement de son appartement et pourtant Alain Coq ne s'y rendra pas. Chaque mouvement est une souffrance pour lui. Il s'exprimera ainsi par visioconférence. Il racontera que s'il est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il a été mal compris. Il voulait simplement être soulagé, mais pas sauvé, dit-il.
J'étais à un tel niveau de douleur que j'ai accepté l'aide qui m'était proposée, mais elle a été mal comprise. Pour moi, il n'était pas question d'arrêter, mais seulement de prendre en charge la douleur. Je ferai simplement la démonstration que notre État n'est pas en capacité d'assister décemment les personnes qui se retrouvent dans ma situation et n'arrivent pas à soulager grand nombre de souffrances.
Cette incompréhension du corps médical, Jean-Luc Romero-Michel, le président de l'ADMD, estime qu'aujourd'hui la France l'a dépassée et qu'elle est prête à adopter une nouvelle loi légalisant l'euthanasie.
96% des Français veulent une autre loi sur la fin de vie. Toutes les études le montrent. La France est un des pays où on meurt le plus mal. On l'a vu en plus avec la Covid, avec les gens qui sont morts dans des conditions incroyables. C'est bien pour ça qu'il faut une nouvelle loi.
Cette proposition de loi a été envoyée à l'Assemblée il y a 2 semaines. L'association attend désormais une réponse de la part des députés.
Mathieu Bock pour Europe 1.
Il est 8h07. Vous restez avec nous dans un instant. Direction les États-Unis. Il y a une semaine, Donald Trump était hospitalisé après avoir contracté le Covid. Tout à l'heure, il accueillera en grande pompe ses partisans à la Maison-Blanche. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, c'est ce qu'on appelle une convalescence express. Moins d'une semaine après sa sortie de l'hôpital, Donald Trump repart en campagne.
Le président américain s'exprimera depuis le balcon de la Maison Blanche. Il y a urgence pour combler son retard dans les sondages. Trump veut aussi faire taire toutes les rumeurs sur son état de santé. Il s'est d'ailleurs exprimé hier soir sur la chaîne Fox News, interview suivie par notre correspondante Loubna Anaki.
Comment allez-vous ?
Je vais bien.
L'échange est assez improbable. Interrogé par un médecin chroniqueur de la chaîne Fox News, le président des États-Unis se soumet à une évaluation médicale par caméra interposée.
Je me sens très bien, je me sens fort. Et maintenant, je ne prends plus de traitement, je ne prends plus rien.
9 jours après son diagnostic et un passage à l'hôpital, Donald Trump est apparu en meilleure forme avec moins de difficultés respiratoires. Il veut faire passer un message, la maladie est derrière lui. Le président, après accord de son médecin, reprend d'ailleurs sa campagne dès aujourd'hui avec un premier rassemblement à la Maison-Blanche. Près de 2000 personnes auraient été invitées. Donald Trump prévoit un discours autour de son thème de prédilection, la loi et l'ordre. Il s'exprimera depuis le balcon de la Grande Pelouse. Les invités devront porter un masque et passer par une prise de température. Mais cet événement provoque tout de même de nouvelles inquiétudes après les nombreux cas de coronavirus enregistrés depuis une semaine à la Maison-Blanche. Donald Trump avait initialement annoncé qu'il se rendrait ce samedi en Floride, avant de finalement repousser son meeting à lundi. New York, Loubna Anaki, Europe 1.
Sachez par ailleurs que le prochain débat prévu jeudi entre Donald Trump et Joe Biden a finalement été annulé. Et puis toujours à l'étranger, le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur à midi dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont accepté d'arrêter les combats.
Le tennis, c'est un Roland-Garros inédit qui s'achève ce week-end en plein mois d'octobre, sans public, tournoi inédit. Enfin, pas tout à fait.
Et oui, car demain, c'est bien du grand, grand classique qui nous attend. Numéro 1 contre numéro 2 mondial, Novak Djokovic contre Rafael Nadal. L'Espagnol vise un 13e titre et ce sera le grand favori, du moins. C'est ce que pense son adversaire, Djokovic.
Ici, évidemment, lui, parce que c'est la maison de lui, évidemment, avec tous les titres qu'il a gagnés. J'espère pour récupérer. Je dois être évidemment à mon meilleur tennis. C'est le plus grand challenge que tu peux avoir. Oui, je regarde devant. Je suis évidemment plein de joie d'être là. Et je suis motivé aussi de peut-être gagner.
Et tout à l'heure, place aux dames à 15h, finale inédite entre Iga Świątek et Sofia Kenin. Enfin, Pierre, est-ce que vous connaissez le MMA ?
C'est pas une compagnie d'assurance.
Alors, ça peut. Mais celui-là, c'est pas ça. MMA, c'est pour arts martiaux mixtes. On connaît très peu ce sport et pour cause, hein, vous êtes pardonné. Il a été autorisé il y a seulement 8 mois en France. C'est un sport de combat où tous les coups sont permis, ou presque. Coup de pied, coup de poing, coup de coude. Deux athlètes s'affrontent dans une cage. Ça vous pose le décor. Le premier gala de MMA en France aura lieu ce soir à Bercy. C'est un nouveau sport et donc un nouveau business, Axel May.
Depuis des années, les organisateurs internationaux de combats de MMA lorgnaient le marché français. Alors, dès que le gouvernement a donné son feu vert pour des compétitions, Bellator, numéro 2 aux États-Unis derrière le tout-puissant championnat UFC, a décroché son téléphone pour réserver Bercy. Paolo Bocotti est le vice-président de Bellator.
C'est sûr que c'est un marché qui peut se développer comme s'est développé tous les sports de combat dans les années passées. C'est un baptême et on est là pour bien faire pour les prochaines années.
Et tant pis si ce premier gala se fait à perte en raison de la situation sanitaire. Seules 1000 personnes sont autorisées, dont 600 billets payants. L'essentiel est de s'implanter. Et malgré la cage et les nombreux coûts autorisés, les organisateurs tentent de convaincre que le MMA reste un sport comme un autre. Un sport qui, pour se structurer, est placé sous l'égide de la Fédération Française de Boxe. Lionel Brézéfin en est le référent.
Oui, la cage est acceptée au même titre que les coudes. Ça fait partie de la logique interne de la discipline et le travail aussi, c'est de la faire comprendre et de la faire connaître. À nous d'avoir des exigences sécuritaires.
Le public présent ce soir pour avoir lui l'une des rares stars françaises du MMA, Cheikh Kongo.
Axel May, et puis un mot de vélo pour terminer, ça n'arrive pas si souvent, signalons l'excellent début de Giro pour Arnaud Démare. Le Français a déjà remporté 3 étapes du Tour d'Italie en moins d'une semaine et ça n'est pas terminé.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre.